Les As de la copro, la question du copropriétaire.
Bonjour, je suis copropriétaire dans un immeuble à Paris et lors de notre dernière assemblée générale, il y avait deux syndics et ces deux syndics ont obtenu la majorité de l'article 24 en seconde lecture. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est savoir lequel des deux est élu dans ce cas-là. Est-ce que c'est par ordre chronologique du vote ou celui qui a obtenu le plus de voix ? Et j'ai une petite question aussi connexe. La résolution dite sans objet est-elle valable dans ce cas ?
La question est intéressante pour les praticiens, hein, surtout quand on est en assemblée générale. On a plusieurs syndics qui figurent à l'ordre du jour, le syndic sortant, syndic en place, et puis un ou deux syndics challenger. L'ensemble des propositions de contrat sont votées au premier tour à la majorité de l'article 25. Aucun candidat n'obtient la majorité de l'article 25. Les conditions sont réunies pour qu'on utilise la passerelle de l'article 25.1. Donc on vote en seconde lecture, à nouveau pour les candidats. Et là, on se rend compte que, et notamment avec les votes par correspondance, la situation peut arriver, que deux candidats obtiennent la majorité de l'article 24, c'est-à-dire la majorité des voix exprimées. Deux l'obtiennent. Pour autant, il ne peut y avoir qu'un seul syndic. Comment on fait ? Est-ce que c'est celui qui a été élu en premier chronologiquement qui l'emporte ? Ou est-ce qu'on prend sur les deux celui qui a obtenu le plus de voix, comme une sorte de concours, celui qui est arrivé premier au classement ? Mathieu ?
Alors moi, j'ai une opinion extrêmement tranchée, qui est la mienne. À ma connaissance, ce sujet très précis n'a pas été tranché par la jurisprudence aujourd'hui. Hein. La situation est extrêmement claire quant au premier tour. On ne peut pas voter au second tour sur une candidature tant qu'on n'a pas voté au premier tour sur toutes les autres. Mais effectivement, comment se passe le deuxième tour ? Pour moi, la question ne doit jamais se poser parce que on va voter au deuxième tour sur le premier candidat. Si le premier candidat obtient plus de votes pour que de votes contre, il est élu. C'est la condition de majorité de l'article 24. Et à partir du moment où il reçoit plus de votes favorables que de votes d'opposition...
On arrête de voter.
La décision est prise. À ma connaissance, en tout cas mon avis...
Le syndic est élu, ça y est, le syndic est élu.
Et comme il ne peut pas y avoir deux syndics, ça ne sert à rien de voter sur les candidatures suivantes. Et d'ailleurs, je pense que cette règle doit s'appliquer à tous les cas de pluralité de candidature lorsqu'il y a pas, il y a plus de candidatures que de postes. Pourquoi ? Parce que il n'existe pas, à ma connaissance, dans la loi de 65, de conditions de majorité qui nécessitent d'avoir plus de votes favorables que de votes défavorables et plus de votes que le deuxième candidat. Et il existe aussi une règle qui est que les décisions prises par l'Assemblée générale sont d'application immédiate. Donc, à mon sens, une fois qu'un syndic est élu, c'est pas la peine de poser la question de l'élection d'un autre candidat.
Alors c'est bien argumenté.
C'est mon avis.
oui, bien sûr.
Et je serais très preneur d'une décision de jurisprudence pour le confirmer.
Parce que ça veut dire qu'il y a quand même une grosse responsabilité sur le choix de l'ordre. Hein. On sait que c'est le président de séance.
Qui détermine le choix.
Puis ça veut dire, donc, c'est un peu la question connexe, ça veut dire que les autres questions, ou en tout cas, les autres candidatures deviennent sans objet. Et ça, c'est absolument pas non plus prévu par la loi, Alexis, votre avis.
En fait, alors moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Mathieu. En fait, on est sur un principe majoritaire. C'est quoi une majorité ? C'est simplement le plus grand nombre de voix qui font une prise de décision. C'est un principe mathématique. Et donc, du coup, est-ce qu'il est nécessaire ? Il y aura certainement des jurisprudences. Est-ce que c'était nécessaire que la loi le précise ? Peut-être plus des règles de bon sens. Puisqu'on est sur un principe de majorité, donc un plus grand nombre de voix, il n'y a pas de raison que ce principe ne s'applique pas à cette seconde lecture, entre guillemets, hein, à l'article 24. Et c'est le syndic qui recueille le plus de voix parmi les deux ou trois votes qui seraient élus. Moi, ce sujet-là, c'est vrai que ça pose pas mal de questions, mais il y a un principe, je dirais, presque arithmétique, presque logique, à faire prévaloir, finalement, peut-être le fait que le syndic recueille le plus de voix, c'est celui qui recueille le plus de voix qui est élu.
Donc l'option du concours,
du classement, ce serait la même chose pour le choix d'une entreprise. C'est peut-être un petit peu différent sur la désignation du conseil syndical, parce que sur la désignation du conseil syndical, on a une problématique, il y a un côté collégial et puis il y a un nombre de places limitées. Donc là, c'est peut-être c'est un peu plus compliqué.
Si je peux me permettre, pour le syndic aussi, il y a un nombre de places limité.
Non, mais c'est un petit peu différent, parce que là, on est sur une collégialité par défaut, alors que l'autre, c'est un principe unique. C'est un petit peu plus compliqué pour le conseil syndical, puisqu'il peut y avoir plus de candidats que de sièges. Et effectivement, il n'y a rien non plus dans la loi. Alors, on pourrait estimer que c'est un principe d'ordre chronologique de réception de l'acte de candidature, mais ça ne tient pas forcément pour la partie présentielle de la personne qui souhaite être membre en cours d'Assemblée générale. Donc la question est plus complexe. Pour le syndic et le choix d'une entreprise, j'ai beau retourner dans tous les sens, puisqu'on a partagé aussi beaucoup. J'étais aussi sur cette thématique de dire, dans un premier temps, c'est peut-être le premier qui passe aux voix qui est élu. Mais je trouve que finalement, quand on réfléchit,
c'est pas dans l'esprit. Oui,
c'est pas dans l'esprit.
Dans l'esprit de la règle de majorité, oui. La majorité, un avis. Mais Pierre-Edouard,
l'ensemble des arguments se défendent évidemment.
Je trouve que le principe de majorité se défend assez bien, parce qu'en fait. Alors par contre, je suis pas du tout d'accord avec Alexis quand il veut distinguer entre le conseil syndical, le syndic, les entreprises. Le principe doit s'appliquer à tous. Donc soit on adopte une règle qui va trancher la question dès lors qu'il y a un nombre limité et on l'applique pour tous, mais on ne peut pas, à mon avis, faire varier. Mais dans l'idée de la majorité, au fond, le texte de la loi de 65 nous dit que pour adopter une décision, il faut au moins. Et une décision est adoptée si elle recueille tant de voix. Donc, à mon sens, la règle énonce un minimum. Elle ne nous dit pas dès lors que celle-là est adoptée. C'est déjà un petit peu différent. Et puis, effectivement, il y a ce principe de majorité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on arrêterait alors qu'un autre pourrait recevoir plus ? Et au fond, la question se posait un peu moins avant parce qu'il n'y avait pas cette pratique du vote par correspondance. Mais maintenant, avec le vote par correspondance, on pourrait très bien avoir deux syndics ou deux entreprises qui pourraient donner satisfaction. Et ça n'est pas illogique de dire, au fond, je pense que les deux propositions sont bonnes. Et je ne verrai pas d'inconvénient à ce que l'une ou l'autre soit retenue.
C'est pas binaire, c'est pas soit un soit.
Ça n'est pas tout à fait binaire. Et on pourrait tout à fait avoir donc deux majorités suffisantes pour adopter, mais qui sont différentes parce que l'une recueillerait plus de suffrages que l'autre. Et je crois que dans ce cas-là, il serait dommage de s'arrêter à la première, alors que la seconde pourrait obtenir une majorité plus forte. D'autant plus que la pratique du VPC fait que maintenant, les copropriétaires à distance votent et qu'il y aurait, à mon sens, une petite difficulté à dire « Ah ben non, écoutez, on a voté la première, la deuxième, on ne la vote pas, même si vous avez voté. »
Oui, on est sur la pratique de la résolution sans objet qui est condamnée aussi. Hein, qui est condamnée aussi, alors, Sabrina...
Peut-être juste avant de parler de la résolution sans objet, s'il y a des copropriétaires qui nous écoutent, et pour rebondir sur ce que dit Pierre-Edouard, on peut leur passer la recommandation de, quand il y a un choix à faire, de réellement faire un choix. Et s'ils ne savent pas, eh bien ils s'abstiennent. C'est-à-dire que...
Pour les guider dans leur vote ?
Il ne faut pas les guider dans leur vote, mais il faut leur expliquer que la démocratie, c'est choisir. Et quand on ne sait pas choisir, à ce moment-là, on s'abstient. Mais voter pour tous les candidats, ça n'est pas choisir. Et c'est amener finalement de la complexité. En tout cas, là encore, c'est mon avis. Hein. C'est-à-dire que vous rendez service à personne si vous dites « Ok, je veux me fâcher avec personne et je vais voter pour tout le monde ». Ou alors, encore une fois, il existe, et ce n'est pas une honte, cette solution de s'abstenir parce qu'on n'a pas d'idée. Mais il est clair que si, sur un bulletin de vote par correspondance, je vote oui à tout, et notamment à toutes les pluralités de candidats, ça ne va pas faciliter le choix par l'Assemblée générale.
Je mets une croix dans toutes les cases pour, sans réfléchir.
Voilà, et donc, il ne faut pas... alors, peut-être que pour le vote du Conseil syndical, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, on parle des voisins immédiats. Mais lorsqu'il y a pluralité de syndics, eh bien, il faut se faire une opinion, voter pour un syndic, voter contre les autres. Ou s'abstenir. Je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas se retrouver face à ces cas de figure un peu compliqués. Et je précise aussi que malgré tout le talent et tous les arguments que Pierre-Edouard et Alexis ont développés, moi je pense que oui, peut-être en équité, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais encore une fois, je crains que l'article 24 ne nécessite pas ou ne pose pas cette condition d'avoir plus de voix. Donc d'où l'ordre. Très très important de l'ordre de vote, ça évidemment, et le rôle accru du président de séance sur ce sujet-là. Et puis d'où effectivement la question que vous alliez poser sur est-ce qu'il y a des résolutions sans objet ?
Sabrina, vous êtes dans cette situation.
Oui.
Vous faites quoi ?
C'est ce que je voulais ajouter, mais lorsqu'on est en situation et qu'on est syndic en place et que nous avons un mandat en concurrence, si ce n'est pas deux ou trois, on va prendre le cas le plus simple où il n'y en a qu'un seul en concurrence et qu'on se retrouve dans ce cas de figure, ce qui se passe généralement, c'est l'ordre qui prime et souvent... Bah, c'est quand même le syndic en place qui a mis son mandat avant le suivant. Donc oui, le rôle du président du conseil syndic, du président de séance, pardon, à ce moment-là, peut jouer en tout cas un rôle déterminant dans l'élection de l'un ou de l'autre syndic, si les deux recueillent plus, enfin en tout cas recueillent la majorité de l'article 24. Voilà, donc à mon sens, moi je partage en tout cas l'avis de Mathieu sur ce point. C'est par ordre chronologique, et dès lors qu'un syndic est élu et requiert la majorité, il n'y a pas lieu, effectivement, d'en faire désigner un second.
Alors, c'est bien, on a un partage, là, des voix, hein, oui. Sur le plateau.
Et les places
deux
ne sont pas choisies.
Alors, attention, hein, moi j'ai...
Décision de jurisprudence.
Est-ce que je vais trancher on est bien d'accord qu'il faut faire qu'une seule résolution, désignation du syndic, et dans cette résolution, différents candidats. Parce que si on fait d'abord une résolution distincte pour soi-même, et qu'on en fait une autre avec un autre numéro, oui, on pourrait, là, ce sera notre débat, est-ce qu'on peut passer... à la résolution suivante sans avoir tranché la première, ou alors si la première est tranchée, elle est forcément tranchée, on pourra en compte. Là, on n'a qu'une seule résolution.
Alors là, je pense que là, pour le coup, la règle est bien établie.
Oui,
on a une seule résolution. Sur toutes les candidatures.
On a une seule résolution, élection du syndic, et là, on a différents devis.
Mais voilà, ce que vous dites est assez intéressant, oui, c'est-à-dire que si je vote au premier tour et que le premier candidat reçoit plus de 50% des votes,
il est élu.
Est-ce qu'on va faire voter sur la deuxième candidature ? Non, oui. Jamais.
Il est élu, mais pour autant, il faut
alors
quand
qu'il
même...
pourrait recevoir encore plus.
Oui, alors là, on est sur le principe de la passerelle. Si on a deux syndics qui obtiennent la majorité de l'article 25, c'est ça.
Voilà, mais la
règle est la même.
Oui, enfin, la pratique n'est absolument pas de mettre aux voix la candidature de deuxième syndic lorsque le premier syndic a obtenu plus de 50%.
C'est la pratique, mais effectivement, moi, personnellement, je fais voter, et même si je suis le candidat sortant, je fais quand même voter sur l'ensemble des candidatures, ne serait-ce aussi que si j'ai été réélu pour bien montrer que l'autre ne l'est pas. Mais en tout cas, il y a plusieurs candidats, je fais voter pour tout le monde, que ce soit en première lecture ou en deuxième lecture, finalement, la question est la même.
Oui, elle devrait, en tout cas.
Et je crois qu'il y a de mémoire, mais il faudrait recompulser le code bleu dans lequel il y a un certain nombre de décisions. Et je crois qu'il y a des jurisprudences qui nous disent que lorsqu'une question est portée à l'ordre du jour, elle doit être mise aux voix.
Oui. Oui.
Ça, c'est la question des résolutions sans objet.
Et oui, mais si j'ai deux questions qui sont mises aux voix pour l'élection du syndic ou d'une entreprise, et je crois qu'il faut voter.
Et sur le VPC, on le voit bien qu'il y a deux questions. Hein. Il y a deux cases.
Oui, alors moi, sur ce point-là, tout l'ordre du jour de l'Assemblée générale doit être mis au vote dans son entièreté. Mais dans certains cas, les décisions de l'Assemblée générale entraînent, pour une décision suivante, un projet de résolution suivant, entraîne une absence d'objet. Je prends un exemple tout bête. Sur des travaux, vous mettez aux voix le principe des travaux, le principe est rejeté.
Les honoraires.
Est-ce que ça a du sens de voter le financement, la souscription de la DO, les honoraires du syndic ? Non, ça devient sans objet.
Ça voudrait dire qu'il faut faire projets de résolution à chaque fois conditionnels et conditionnés.
Ou un copropriétaire. Un copropriétaire a demandé l'autorisation de faire des travaux, et puis entre sa demande et l'Assemblée générale, il a vendu. Bon, il n'y a plus d'objet. Il y a un moment quand même où, de manière très pragmatique, là, il ne s'agit pas de dire « je fais mon marché dans l'ordre du jour et je décide de ne pas mettre au vote telle résolution parce qu'elle ne me plaît pas ». C'est simplement, dans certains cas...
Pour autant, comme le dit Pierre-Edouard, la question est mise à l'ordre du jour, le texte dit qu'il faut voter. Alors pourquoi pas voter contre, en bloc ?
Alors, et qu'est-ce qu'on fait si, après avoir voté contre le principe des travaux, un petit malin pour embêter tout le monde ou pour être taquin, dit « ok, moi, je vote les appels de fonds
».
Débat est ouvert. Le débat est ouvert.
C'est vrai qu'il y a sur cette pratique une difficulté, mais au fond, je crois que la pratique tend à considérer qu'il y a comme une condition non écrite, mais tacite, de l'acceptation du principe et de tout simplement de son exécution. C'est-à-dire que si je ne vote pas le principe, évidemment, toutes les autres questions étaient conditionnées par l'adoption du principe. Donc, si je n'ai pas adopté le principe de travaux, bien, je n'en adopte pas les modalités, mais parce que ce sont bien des modalités d'exécution. Donc là-dessus, C'est peut-être un sophisme d'utiliser cet argument pour contrer celui de la mise aux voix de deux candidatures tout à fait distinctes. Parce qu'il ne s'agit pas de voter des modalités d'exécution de quelque chose qui aurait été rejeté. Il s'agit de voter deux principes, deux travaux, deux entreprises. Et on pourrait tout à fait... Mais ça vaut pour une mise en concurrence, mais comme des projets de travaux. Mmh. On pourrait tout à fait avoir, dans un syndicat de copropriétaires, deux projets de ravalement. Un projet de ravalement avec ITE, pardon, avec une isolation par l'extérieur, et un ravalement classique, mise en peinture, ravalement pierre, etc. Et les copropriétaires pourraient avoir un choix à faire entre ces deux options. Et il y a des copropriétaires qui pourraient dire, bah, écoutez, et sans que ça soit du tout blâmable, sans d'ailleurs qu'on puisse leur dire, ah ben non, vous êtes vraiment de vilains indécis qui avaient refusé de prendre position, vous ne servez pas les intérêts du syndicat. Non. Il dirait, mais moi, j'accepte les deux. Mmh. J'ai une préférence peut-être pour le ravalement avec l'ITE, mais si on ne ravale pas avec ITE, j'aimerais quand même que l'autre soit fait. Et donc, je vais voter pour les deux possibilités. Et ça n'est pas une décision d'un indécis ou d'un imbécile. C'est une décision sensée. Et à la fin, il faudrait départager. Et départager, ça veut dire compter lequel a reçu le plus de voix si les deux étaient majoritaires. On ne peut pas comparer deux principes avec un principe et ses modalités d'exécution.
Les As de la CoPro sur Radio Immo.